D'un jardin à l'autre, le livre de Frédéric Baudin. Frédéric Baudin, bonjour. Vous êtes écrivain, membre fondateur de la branche française de l'organisation AROCHA, Protection de l'environnement dans une perspective chrétienne. Alors dites-moi, dans ce livre, c'est toute la Bible que vous nous faites lire sous l'angle jardinier. Enfin, vous faites lire ou plutôt faire méditer. Nous pouvons le suivre dans les jardins où il nous entraîne. Vous nous entraînez dans des jardins dont la beauté demeure toujours vivifiante. Alors moi, ce livre, c'est extraordinaire parce que vraiment on reviendra sur ce parcours de méditation initiatique. Effectivement, vous nous entraînez dans différents jardins, le jardin de la loi, le jardin d'Égypte, le jardin des délices. Tout ça, c'est effectivement très passionnant et j'en arrive dans ce livre au jardin de la terre, cultivé, avec une phrase de choc dans ce jardin de la terre. Comme la cupidité finit par détruire la nature, les chrétiens doivent apprendre à dire « Arrêtez, il est maintenant temps de prendre son temps ». Frédéric Baudin, votre engagement, ça veut dire quoi ce jardin de la terre cultivé ?
Cultiver le jardin, alors on l'a souvent mal cultivé, hélas, hein, et parfois en prenant appui sur ces verbes même qu'on trouve dans la Bible, dans la Genèse en particulier, cultiver, garder, oui, on n'a peut-être pas pris attention à ces deux verbes forts, on a parfois pris davantage dominer et soumettre, dans le mauvais sens du terme, en abusant, en cultivant et dominant de façon excessive cette terre et jusqu'à l'appauvrir, jusqu'à la réduire à l'état que nous connaissons hélas aujourd'hui. Et là nous sommes très loin du projet initial et qui est décrit en particulier dans ces premiers livres de la Bible qui sont toute une introduction à la vie, le lancement, hein, tout est donné au départ et malheureusement nous n'avons pas toujours eu la force de bien cultiver, de prendre notre responsabilité, j'insiste souvent sur ce terme, la liberté s'accompagne de responsabilité et la liberté sans responsabilité. Le résultat que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire une terre amoindrie, en partie détruite et avec toutes les menaces qui pèsent aujourd'hui sur cette terre. Nous avons mal cultivé, d'une certaine manière, la terre et encore moins gardé cette terre.
Mais les premières références bibliques, je crois que vous en avez dans ce livre excessivement important du rapport de l'homme par rapport à la nature.
Oui, alors j'ai essayé de resituer toute la perspective du jardin, au sens large, c'est la terre bien évidemment, hein, du jardin d'Éden à celui de l'Apocalypse, même si l'Apocalypse se réduit surtout à une ville, mais une ville avec un arbre extraordinaire qui nourrit les nations, qui a des récoltes de fruits tous les mois, etc. Donc une sorte d'abondance, hein, et cet arbre qui guérit les nations, je ne sais pas très bien ce que ça peut vouloir dire dans le détail, mais on est là dans un jardin extraordinaire au milieu d'une cité, et c'est important de le nommer. Donc voilà, toute la méditation que j'essaye d'entreprendre dans ce livre tourne autour des principes bibliques qui nous sont donnés au départ. Dominer et soumettre, cultiver et garder. On pense aussi à croître et multiplier. Hein, et finalement, la source, au moins en partie, de nos malheurs vient un peu de là. Une population mondiale qui est en très forte croissance depuis le début du 19e siècle.
Mais justement, dans votre livre, d'un jardin à l'autre, sur ce chapitre, il y a une ambiguïté, effectivement, de fond. Vous parlez de l'injonction biblique, soyez féconds, multipliez-vous, et vous dites après, cette explosion démographique est en partie la cause de la dégradation de notre environnement actuel. Et là, il y a une grande interrogation.
Alors, il y a une grande interrogation, effectivement, mais tout se tient. Dans le croître et multiplier, il est sous-entendu, au moins au départ, que comme tout ce que l'homme peut faire et doit faire en tant que gérant de la création, en tant que responsable de bien mener sa vie, je dirais, devant Dieu et avec Dieu, et bien précisément c'est là que le bât blesse, c'est que l'homme s'écartant de Dieu, et bien non seulement cultive et garde moins bien cette terre, mais croit et multiplie aussi de façon parfois anarchique, sans sagesse, sans amour, hein, et il y a quelque chose aussi dans la croissance qui peut être faussée, y compris hein, dans cette multiplication un peu anarchique et qui se passe mal, si vous voulez, et qui a des conséquences. Alors les conséquences, nous les connaissons, elles sont aussi le résultat d'une mauvaise gestion. Ça me semble assez évident. Alors bien sûr, On passe de 1 milliard à 6 milliards d'habitants. On dit à juste titre l'explosion démographique, le terme est bien choisi, en deux siècles, en deux petits siècles en gros. C'est énorme. Et il fallait nourrir, abriter au mieux toute cette population sans cesse croissante. Et pour cela, bien sûr, développer l'industrie, l'agriculture, aussi nos villes, les organiser, assurer la distribution des biens à grande échelle. Et tout cela a malheureusement entraîné un certain nombre de conséquences sur la planète, sur les ressources naturelles que nous avons abusivement pompé ici et là, hein. Et vous avez cité un mot très important tout à l'heure dans la citation, c'est celle de cupidité.
C'est ça, absolument.
Cupidité.
Équateur, des questions pour aujourd'hui et pour notre planète.
Je reviens en direct d'Équateur avec Frédéric Baudin, l'auteur d'Un jardin à l'autre, Cupidité. Et il y a des phrases très très fortes dans votre livre, mais des phrases toutes simples, je vais en citer deux, trois. L'homme sera-t-il encore à l'avenir marcher quelques centaines de mètres pour aller chercher son pain chez le boulanger ou conduire ses enfants à l'école? Combien de kilomètres parcourent aujourd'hui en voiture les paroissiens d'une communauté chrétienne pour rejoindre leur lieu de culte? C'est tout simple et c'est fort.
Et c'est un vrai problème en même temps, hein, le rapport à l'espace et au temps. On a cité tout à l'heure Jacques Ellul, il est temps maintenant de prendre son temps, et c'est la cupidité, on dit le temps c'est de l'argent, et oui, on est façonné aujourd'hui par cette phrase, hein, et nous courons après le temps parce que nous voulons certes gagner notre vie, et là rien que de légitime, c'est tout à fait normal, mais on outrepasse, on va plus loin, on dépasse les limites, et c'est la grande tentation de notre siècle, dépasser les limites, nos limites humaines, celles de notre espace, celles de notre temps. Alors, il n'y a pas forcément que du mauvais dans cette volonté de dépasser certaines limites, mais lorsqu'on va trop loin, oui, effectivement, on appauvrit finalement notre planète. Hein. Au lieu de s'enrichir, on l'appauvrit. Il y a là une sorte de paradoxe, à force de vouloir courir après le temps et l'argent, eh bien, on a oublié ne serait-ce que la notion de repos, et qui est dans la Bible liée à la foi. On ne peut pas se reposer sans avoir confiance en celui qui pourvoit à nos besoins même lorsqu'on se repose.
Un peu d'histoire justement dans ce livre. C'est très très important aussi ces passages d'un jardin à l'autre. L'histoire des églises historiques justement par rapport à ce mouvement environnemental. Et vous parlez d'un penseur calviniste Francis Schaeffer sur un livre « La pollution et la mort de l'homme ».
Oui, un des tout premiers livres écrits par un chrétien pour tirer la sonnette d'alarme très fort, hein, dans les années 60, en réponse à un article de Lynn White qui était paru dans la revue célèbre Science aux États-Unis, qui en gros accusait en quelque sorte les chrétiens d'être responsables de la crise écologique et qui essayait de trouver là les racines de la crise écologique que nous connaissons en les identifiant à l'histoire chrétienne en particulier. Et Francis Schaeffer, à ma connaissance, est l'un des premiers à répondre de façon un peu sur la défense, mais ensuite dans un sens beaucoup plus positif sur la pollution et la mort de l'homme qu'elle peut entraîner, en signalant que oui, les chrétiens n'ont pas fait ce qu'il aurait fallu faire, c'est-à-dire être peut-être les premiers à tirer la sonnette d'alarme, à se conduire autrement, à revenir au principe d'une domination certes, mais saine, en communion, si je puis dire, avec Dieu, c'est-à-dire dans les principes que Dieu lui-même énonce, hein, de sagesse, de discernement, d'amour du prochain, parce que tout cela se tient très bien. Et alors oui, il y a une sorte de prise de conscience, pour ainsi dire de repentance, hein, sur certaines pratiques qui ont été abusives, mais pour autant cela ne justifie pas une interprétation erronée de la Bible qui nous encourage au contraire à être responsables, à être clairvoyants, à être de ceux qui sont attentifs à leur prochain, y compris pour leur environnement.
Alors vous faites un bout d'histoire avec ces églises historiques jusqu'à la création en 1983. Vous êtes l'un des membres fondateurs de l'association Arrocha, qui veut dire le rocher. Quelques mots sur cette association.
Alors Arrocha, le rocher en portugais, puisque c'est un pasteur anglican britannique, hein, qui a créé l'association Arrocha, donc dès 1983, effectivement, au Portugal. Et Arrocha signifie le rocher en portugais, parce que c'est le lieu tout simplement où il s'est installé, avec deux objectifs. Le premier, accueillir des gens et les sensibiliser à la nécessité de protéger l'environnement, et pour lui, dans une perspective chrétienne, mais le centre est ouvert à toute personne qui s'intéresse à la démarche, il n'y a aucune barrière, quelque sorte. Et autre objectif, protéger de façon pratique l'environnement, avec toujours un projet scientifique à la clé. Et là, c'était donc la défense de l'estuaire de l'Alvor, au sud du Portugal, avec tous les problèmes que cela pose, puisque l'ensemble des estuaires pratiquement au Portugal et au sud, dans cette belle région de l'Algarve où je suis allé, on a pratiquement tout asséché, construit des golfs ou des pistes d'aérodromes, et il n'y a plus pratiquement de ces réserves dites naturelles qui sont malheureusement asséchées, détruites, etc.
Vous avez un centre à Rocha, je crois, dans le sud-est de la France.
Alors nous avons depuis organisé non seulement la branche française, mais avec un lieu près d'Arroche, près de d'Arles, donc dans les Bouches-du-Rhône, avec tout un travail là aussi scientifique sur la vallée des Baux-de-Provence. Et nous essayons de travailler en relation avec toutes les groupes qui déjà sont sur place, scientifiques, les communautés locales, les collectivités, etc., pour essayer de lancer un travail là de protection sur la vallée des Baux-de-Provence, qui est un petit paradis.
Un petit paradis, oui, effectivement, mais avec des menaces. Vous parlez beaucoup dans votre livre des menaces sur la biodiversité.
Alors, la biodiversité, comme toutes les zones humides, c'est le cas pour la vallée des Baux-de-Provence, qui a été en grande partie asséchée. La biodiversité est très importante dans les zones les plus humides et donc nécessite d'autant plus d'y être attentif et de les protéger.
Équateur, le magazine du développement durable, RCF.
On revient avec Frédéric Baudin pour ce livre superbe d'un jardin à l'autre. Je reviens un peu sur l'histoire. Donc on voit, vous décrivez très bien l'engagement progressif du monde chrétien au sens large vis-à-vis des problèmes écologiques. Et puis vous en arrivez effectivement jusqu'au pape Jean-Paul II qui a exhorté les fidèles catholiques romains à s'intéresser aux questions de l'environnement et du développement durable. Ça, on le sait peu parfois.
Oui, on oublie que Jean-Paul II, comme d'autres, ont écrit de très très belles lignes sur la nécessité de protéger l'environnement, et vraiment dans une perspective chrétienne. Jean-Paul II écrit par exemple que l'être humain est saisi par le désir d'avoir et de jouir plus que par celui d'être et de croître. Voilà une phrase très très forte,
très fort, hein,
et qu'il consomme donc l'homme d'une manière excessive et désordonnée les ressources de la terre et la vie même. Et il croit pouvoir disposer arbitrairement, dit Jean-Paul II encore, des ressources de la terre en la soumettant à sa volonté, à sa mesure. Et au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu, eh bien l'homme se substitue de quelque sorte à Dieu et finit par provoquer la révolte de la nature qui est plus, dit-il, tyranniser que gouverner par lui. Alors voilà des phrases très très fortes qui rejoignent d'autres propos. Je pense au philosophe Jacques Ellul, qui est finalement très lu aux États-Unis et assez peu en France, alors que c'était un philosophe français qui a beaucoup écrit aussi sur l'environnement, le rapport à la création, notamment dans un petit article qui porte ce titre, Le rapport de l'homme à la création. Et Jacques Ellul souligne que l'homme appartient à cette création, qu'il y porte une présence de Dieu et qu'il est même le gérant de la création pour Dieu, son lieutenant, dit Jacques Ellul. J'aime bien l'expression et on retrouve là tout à fait la notion de collaborateur de Dieu soulignée par Jean-Paul II de son côté. Et Jacques Ellul ajoute qu'on ne doit pas gérer cette création pour la puissance ou la domination, mais en tant que représentant de l'amour de Dieu. Chose qu'on a totalement oubliée, et c'était le mot d'ordre de Peter Harris, le fondateur d'Arrocha au Portugal.
Hein. Vous dites
il apportait une présence et un amour de Dieu pour la création tout entière.
Vous dites dans ce livre, or c'est bien dans le respect des limites fixées par Dieu que se trouve sans aucun doute une solution pour résoudre le problème.
Oui, alors c'est pas toujours facile d'abord de savoir quelles sont les limites, hein, nous en sommes tous là, et le problème des seuils et des limites à définir ne sont pas toujours très simples à discerner, mais tout de même, nous sommes, je pense, et nous l'oublions trop, des créatures limitées, je l'ai dit tout à l'heure, dans le temps et dans l'espace. Et notre grande tentation finalement, c'est d'aller plus loin que nos limites. Et d'aller plus loin que nos limites, l'exemple est très simple, hein, nous avons besoin de manger, de boire, jusqu'à un certain point. Si nous mangeons trop, eh bien nous en sommes aussi malades. Et c'est un petit peu l'expression d'ailleurs qu'on retrouve dans la Bible à propos de la terre. Si on l'exploite trop, si on la surexploite, eh bien elle en devient comme malade au point de vomir ses habitants. Vous savez que l'hébreu est très éloquent dans la Bible, et c'est un verbe très fort, hein. La terre trop exploitée finit par vomir ses habitants.
Vous y allez fort quand même dans votre livre. Enfin, si c'est bien de vous ces phrases, Frédéric, vous dites à propos des hommes, mais leur libido débridée, leur volonté de dominer la création afin d'attirer le plus grand bénéfice, leur cupidité idolâtre les conduisent à appauvrir cette création de façon aujourd'hui alarmante. C'est un constat très très dur, ça.
Oui, mais je crois qu'il faut le dresser au moins de temps en temps. Au fond, saint Paul, dans la lettre aux Romains, parle de la cupidité comme une idolâtrie. Et sa démonstration est très forte. Finalement, que dit saint Paul ? On peut voir quelque chose de Dieu dans la nature. On ne voit pas tout, on ne comprend pas tout de Dieu en s'extasiant, si je puis dire, devant la nature, mais on en perçoit quelque chose. Au moins la trace, la marque, l'empreinte de Dieu. Si on détruit la nature, on perd déjà ce rapport à Dieu lui-même. Et lorsque Paul parle de la cupidité comme une idolâtrie, il souligne que chaque fois que l'on outrepasse justement nos limites, qu'on les dépasse, qu'on les force, eh bien on tombe dans ce qu'on peut appeler une sorte d'idolâtrie, de renversement. Et il cite d'ailleurs, hein, que les hommes, au lieu de dominer sur les poissons, les oiseaux, etc., comme c'est dit dans la Genèse, eh bien il en est réduit l'homme à adorer ses créatures, à les diviniser, à se courber et les prier même, ce qui est un renversement complet de l'ordre du départ.
Hein, ça m'interroge en lisant votre livre, parce que ça rejoint, vous n'êtes pas tendre avec un certain courant écologique aux États-Unis que vous appelez le New Age, le Nouvel Âge.
Oui, et pas seulement aux États-Unis, hein, c'est maintenant un mouvement qui dépasse très largement les frontières américaines. Effectivement, je ne suis pas tendre, j'ai du respect, si vous voulez, pour quiconque pense autrement que moi, c'est évident. Mais ceci dit, d'un point de vue chrétien, oui, parce que simplement, le Nouvel Âge a une tendance tout à fait panthéiste. Voit Dieu finalement dans la nature comme toute chose ou tout élément de cette nature comme une parcelle de la divinité. Et là, je pense qu'on est aux antipodes de la théologie chrétienne où Dieu est radicalement différent de l'homme. Et on est plutôt dans l'ordre de l'alliance. On fait alliance avec Dieu, mais on ne se confond pas avec Dieu. Il y a une distance. Et la communion n'est pas la confusion. Et je pense qu'à partir de là, on peut voir les choses autrement. Et la foi en Dieu, en un Dieu créateur notamment, même si la création peut avoir des acceptions assez différentes selon les uns et les autres, hein, la foi en un Dieu créateur oriente notre regard, influence notre regard sur ce monde. On ne voit pas le monde de la même façon qu'un hindou ou qu'un bouddhiste. Ou voilà, c'est un fait, hein, on le voit de façon différente. Et dans le New Age qui est de tendance syncrétiste, qui mélange un petit peu toutes les traditions, alors là, je pense qu'il y a effectivement une assez grande distance entre la foi chrétienne et cette religion syncrétiste qui mélange finalement Dieu à la nature.
Alors prudence quand on dit parfois certains planète Gaïa, la planète Gaïa, on la vénère.
Ah oui, là je suis très réticent. Et là on est vraiment dans le renversement, hein, dans l'idolâtrie, y compris de la planète, hein, lorsqu'on l'érige en divinité. Et Gaïa, c'était la divinité de la Terre.
Équateur, le magazine du développement durable, Teddy Follenfant.
Dernière partie d'Équateur pour ce livre de Frédéric Baudin, D'un jardin à l'autre. D'ailleurs, pour les auditeurs que ça intéresse, ils peuvent avoir tous les renseignements en allant sur le site internet semfrance.org, sem, france, tout attaché, .org. Et là, je crois que vous pourrez vous procurer le livre bigrement passionnant. Alors dites-moi qu'il est difficile, l'art de bien gérer le jardin de cette terre. Comment gérer, comment faire pour qu'une société plus humble, plus écologique, comment faire? Quelle est notre responsabilité humaine et chrétienne véritablement dans le prochain processus?
Oui. Alors évidemment, le défi pour nous tous, chrétiens ou non, hein, c'est de trouver des solutions agricoles, industrielles, j'ai ajouté tout à l'heure urbaines, qui nuisent si possible le moins possible à l'environnement, tout en permettant de nourrir, d'abriter au mieux le plus grand nombre d'individus, et cela, dit-on, sans freiner le progrès économique, scientifique, social, technologique, etc. Tout cela, c'est ce qu'on appelle le développement durable. Alors, quelle place, en tant que chrétien, très, très modeste, hein, pouvons-nous prendre dans cet effort de mieux gérer la création? Alors évidemment, la disproportion des enjeux et de nos gestes inquiète un peu. Finalement, je ne dis rien de plus que ce qu'on verra sur le site du gouvernement français ou de Nicolas Hulot ou de tant d'autres qui recommandent, ou dans le film d'Al Gore dont on parle beaucoup. Finalement, un appel à la modération. J'ai lu ça dans le pacte écologique, par exemple, de Nicolas Hulot. Et je rejoins tout à fait cet appel à la modération, à essayer de consommer de façon plus modérée, plus intelligente aussi. Hein, peut-être prendre les choses qui sont là à notre portée plutôt que d'aller prendre celles qui sont fabriquées aux antipodes, et voilà, des principes assez simples.
Mais là, la question, Frédéric Baudin, la question, vous abordez développement durable. Certains théologiens, penseurs connus, eux disent complètement maintenant, ils rejoignent un peu le discours des années 60-70 du Club de Rome, halte à la croissance, plutôt maintenant prôner une décroissance.
Oui, alors personnellement, je suis un peu plus réticent sur cette pensée. Moi, je pense que le monde, c'est un monde qui vit, qui évolue, qui croit. On est de toute façon dans un système qui va dans le sens de la croissance, et on ne peut pas l'éviter jusque. Par contre, que l'on dénonce l'hypercroissance, hein, encore une fois, je reviens à cette question des limites. C'est là où on franchit des pas qu'on ne devrait pas franchir. Pourquoi tant de molécules de synthèse sur le plan chimique que l'on a littéralement produit et qui prolifère sans qu'aucune étude toxicologique, par exemple, soit entreprise pour vérifier si elles sont ou non nocives pour la santé. Vous voyez, il y a tout ce rapport, hein, et on a parlé de la cupidité, c'est l'amour de l'argent qui dépasse encore une fois les limites. Hein, c'est ça, la cupidité, c'est vraiment l'amour de l'argent pour l'argent. Et là, effectivement, en tant que chrétien, on a un signal fort à donner, qui est celui de la sobriété. Par exemple, dans un temps de Pâques, temps de carême, ben, rappeler par exemple la sobriété comme moyen aussi de mieux consommer, d'être plus raisonnable et plus conscient de ce que Dieu nous apporte. On a parlé aussi de prendre son temps, et bien le repos du sabbat, ça va aussi dans ce sens. Alors, c'est pas tout à fait une décroissance, c'est plutôt un repos dans la foi qui espère, qui va dans le sens peut-être aussi d'une croissance.
Pour finir, Frédéric Baudin, vous dites une phrase très très importante à la fin du livre. Lorsque le jardin du ciel descendra sur cette terre pour l'éternité, ce jour marquera aussi un nouveau commencement.
Oui, alors là, on est vraiment dans le domaine de la foi et de l'espérance chrétienne, hein, d'un renouvellement, d'une régénération, d'une recréation, comme il est dit, dans, y compris le prophète Ésaïe, Dieu va créer toute chose nouvelle, de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Alors je pense que c'est cette terre qui va être totalement régénérée. On retrouve d'ailleurs des échos dans le Nouveau Testament, chez saint Paul, hein, la terre souffre comme en gémissant, elle attend la restauration finale, et nous sommes dans ce temps, nous, d'attente, et nous l'espérons, et nous espérons cette régénération, ce renouvellement complet de la création.
Pour finir, je vais simplement citer aussi quelque chose de très très important dans votre livre. Prendre soin de la création, cultiver et garder ainsi le jardin du ciel et de la terre, servir nos semblables dans ce monde, respecter les animaux et les plantes que l'on utilise ou consomme, économiser nos ressources naturelles, c'est aussi une façon d'aimer Dieu et notre prochain. Frédéric Baudin, c'est un excellent livre, d'un jardin à l'autre, un véritable parcours initiatique à travers tous ces jardins. Je répète aux gens que ça intéresse effectivement, vous pouvez aller voir votre site, donc c'est CEM France, vous attachez ?
Tout attaché, cemfrance.org.
Un dernier mot, Frédéric Baudin, vous êtes engagé chrétien à fond pour l'environnement, vous êtes optimiste pour les générations futures, les années futures, nous allons pouvoir corriger le tir. Est-il encore temps ?
Pour l'instant, il est difficile de dire et de lire l'avenir, hein, au vu de ce que nous voyons dans notre société. J'espère qu'il est encore temps. Et quand je dis cela, j'ai un petit doute. Vous savez, le monde est comme une locomotive lancée à grande vitesse. Il faut du temps pour l'arrêter et infléchir son mouvement, éventuellement lui faire changer de direction. Alors oui, en tant que chrétien, c'était votre question tout à l'heure, on peut par nos petits gestes, au moins indiquer, donner un signe d'un changement, mais restons très modestes. Et surtout, il est temps, effectivement, de changer. Si on doit changer, si on doit réformer encore le mouvement, eh bien, c'est le moment, mais n'attendons pas trop.
Merci infiniment, Frédéric Baudin. Le livre « D'un jardin à l'autre ». Merci beaucoup. Merci.